bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute du Canu Info du 10 avril, vendredi 10 avril, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va commencer par vous diffuser un reportage qui a été réalisé hier pendant la manif contre la loi Macron. Ensuite, donc la manif de Lyon. Ensuite, on vous fera un petit point sur la loi Macron et ce que prévoit cette loi qui est bien fouillie, mais qui prévoit des trucs bien chauds au niveau du droit du travail. Après, on vous diffusera un petit reportage qui avait été fait il y a 15 jours sur une marche non mixte à Marseille, bien sûr. Et on parlera de la marche non mixte qui va avoir lieu ce soir à 20h à Croix-Rousse. Après, on fera un point sur le gaz de schiste en passant par la France, le Danemark et voilà, l'Algérie. Et on va essayer de contacter des gens qui sont au rassemblement en ce moment devant la DDCS, un rassemblement de Jamais sans toi. Donc voilà, on vous lance tout de suite le reportage sur la manif de la loi Macron d'hier.
À la manifestation contre la loi Macron qui a lieu au départ de Jean Massé. Donc il y a la CGT, FO, plusieurs syndicats, il y a des pancartes un peu de partout où c'est marqué retrait du projet de loi santé, stop à l'austérité, augmentation des salaires. Il y a la CGT Vinatier qui est là notamment. Il y a aussi les cortèges de Sud, du Front de Gauche, de la CNT, des jeunesses communistes. Et du SNES. On est en colère dans le secondaire. On est en colère, toujours la galère. On est en colère. Alors du coup là t'es dans le cortège de Sud.
Ouais, plus le cortège étudiant, vacataire, voilà, syndicat divers, étudiants et lycéens, quoi.
D'accord, et pourquoi t'es là aujourd'hui?
Bah alors, de manière un peu générale, c'est un appel de l'intersyndicale contre les politiques d'austérité. Donc toi, on est là pour dire que bah, cette société, clairement, on la rejette, on n'en veut pas. C'est des choix politiques et des choix budgétaires qui nous foutent dans la merde, qui nous foutent dans la précarité. Et nous, on sera toujours là pour les combattre. Et à titre un peu plus personnel, moi, je fais partie des vacataires de Lyon 2. Et on était en grève là très massivement. Et du coup on est là pour dire que le combat il n'est pas fini, ça continue. Parce que très concrètement, on a obtenu des choses, mais il reste des choses à obtenir et on les obtient que par le rapport de force, parce qu'à Lyon 2 ils ne comprennent que ça.
D'accord, et c'est quoi que vous avez obtenu et c'est quoi que vous voulez obtenir encore?
On a obtenu un cadre légal de travail, c'est une honte. C'est-à-dire qu'on a obtenu la signature d'un contrat de travail et d'une paye, alors que pour certains on enseigne depuis plus d'un an à l'université. Et du coup on a ça et on a obtenu le remboursement de nos frais d'inscription, parce que nous on est personnel de l'université et on était obligé de payer pour enseigner. On était obligé de payer 600 euros. Et du coup j'arrive. Et du coup on se dit que, enfin, on n'a pas fait 6 semaines de grève pour obtenir simplement un cadre légal. On veut qu'il y ait une vraie réflexion sur ce qui se passe quand on est vacataire à Lyon 2. On veut qu'on change le support sur lequel on est employé, parce qu'on est employé dans des conditions de précarité. Et on a décidé de plus de les accepter. Et s'il faut continuer à faire la rétention des notes pour que le reste de nos revendications passe, comme le fait d'avoir des TD moins chargés, le fait d'avoir des TD qui sont maintenus en début d'année, etc., on se battra.
Ok, donc toi t'es plus là vraiment contre les politiques d'austérité par rapport à la loi Macron, mais aussi au reste.
Si, moi je suis là pour tout, parce que c'est un ensemble. À l'université, c'est pas quelque chose qui est bloqué et qui est coincé dans une entité indépendante. C'est quelque chose qui est très lié aux logiques de société et aux logiques budgétaires. Et clairement, bah, y a plus de fric pour les universités, mais comme il y a plus de fric pour les hôpitaux, pour les écoles, c'est une logique globale. Et donc la loi Macron, on la combat au même titre que tout le monde qui est là dans la rue ce soir, enfin cet après-midi.
Et toi, t'es syndiqué?
Ouais, moi je suis syndicat solidaire.
D'accord. Bon, merci. Alors, bonjour, c'était pour savoir qu'est-ce que vous faites là dans la manif?
Nous, on fait partie d'un collectif sur Lyon qui s'appelle le collectif unitaire 69. Et on est organisé depuis février 2014 autour de la nouvelle convention chômage qui a créé les droits rechargeables au 1er octobre. Et qui crée des conditions d'indemnisation de plus en plus catastrophiques.
Oui, parce que c'est le principe du coup que on est payé selon les périodes qui ne nous arrangent pas forcément. Enfin, les premières périodes qu'on a travaillées, c'est celles-là sur lesquelles se basent les droits chômage, c'est ça?
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un calcul qui prend en compte toujours les droits acquis qui restent, et souvent des anciens droits. Et si on trouve du travail mieux rémunéré, avec des droits meilleurs, on devra épuiser les anciens droits. Donc en gros, aujourd'hui l'UNEDIC indemnise les gens le plus longtemps possible et au moins 10 ans possible. Ce qui fait que voilà, y a des personnes qui se retrouvent avec 7-10 euros par jour. C'est moins que le RSA. Voilà. Donc on est quand même dans un pays extraordinaire. Parce que, je sais pas, dans d'autres parties du monde, quand les gens vivent avec 5 euros par jour, c'est hyper scandaleux, tout le monde crie au scandale, vraiment. Et en France, ben là, ça passe. Donc.
Et du coup, ce truc, il est passé, mais toi, tu penses que c'est possible que ça soit retiré ou...
Ben, depuis 3-4 semaines, les députés là ont voté des dispositifs pour essayer d'atténuer les effets pervers de cette mesure, cette nouvelle convention. Bon, sauf que pour l'instant, on attend les décrets d'application. On ne sait pas comment ça va être appliqué. Parce qu'en fait, les décisions sont prises, mais ceux qui réellement mettent en œuvre ces dispositions, c'est les techniciens du NEDIC. Donc, c'est pas des gens qu'on contrôle, de toute manière. Donc, comment ils vont appliquer ça? Depuis 6 mois dans les pôles emploi, voilà, ils sont pas tellement en mesure de répondre de manière très efficace et très rationnelle et de manière, ils font beaucoup du cas par cas en fait. Ils savent pas trop où ils vont, ils sont complètement dans le flou. Et nous, collectif Unitaire 69, on fait partie d'une coordination qui s'appelle les coordinations intermittents précaires. Il y en a un peu partout en France. Et depuis 10 ans, en gros, c'est pas mal issu des mouvements de 2003 par rapport aux réformes des régimes intermittents. Et on est devenus, tous ces collectifs sont devenus des vraiment experts de ces questions et proposent notamment un nouveau modèle qui prend en compte le travail continu et le travail discontinu, quel que soit le métier qu'on exerce, que ce soit dans le spectacle ou pas. Donc ça regroupe les intérimaires, les chômeurs en contrat précaire, les saisonniers, les intermittents évidemment.
D'accord. Et sur Lyon, vous êtes nombreux dans le collectif ?
On va dire qu'on est peut-être une trentaine, on va dire actifs. Et après c'est variable en fonction des actions, en fonction des...
Vous faites quoi comme type d'action du coup ?
Alors, par exemple, on fait une manifestation, on a pu faire des occupations d'un pôle emploi qui nous a donné accès à un moment à des tables ouvertes au niveau départemental, au niveau du pôle emploi, et on peut soumettre des dossiers. On est beaucoup sur la lutte des droits, notamment les chômeurs en radiation. Donc on essaie de faire avancer collectivement des questions individuelles qui n'ont pas de réponse. Quand on va tout seul à Pôle emploi, on n'a pas de réponse en fait. On n'est pas satisfaisante.
Et s'il y a des personnes qui veulent vous rejoindre, il y a un endroit où vous trouvez ?
Ouais, il y a des permanences tous les 15 jours, le mardi, à partir de 18h30, au Cédra, place Croix-Paquet. Voilà, puis il faut aller sur Internet, sinon taper collectif Inter 69, il y a un forum, qui relaie tout ce qu'on fait.
Ok, merci. Et sur la loi Macron en particulier, tu as des choses à dire ? C'est... quelque chose qui te mobilisait?
Dans le détail, pas trop, mais je dirais qu'en fait, c'est encore une fois une atteinte au droit du travail et au droit des travailleurs. Tout ce que je peux dire, de manière un peu générale. Mais...
Ok, merci.
Ça.
Moi, je suis là parce que je suis feignant et j'ai... et que c'est le printemps, c'est pas mal de marcher.
Mais la loi Macron, quand même, c'est pas génial.
Un peu par, réflexe pavlovien et manifester. C'est un petit peu dans, dans mon ADN.
Mais parce que toi, t'es postier, c'est ça ?
Voilà, postier, oui. Donc, je travaille à la plateforme industrielle courrier de Saint-Priest, donc les centres de tri postaux. Voilà.
D'accord, et qu'est-ce qui se passe ? Ça va pas bien, la poste ?
La poste, non, ça va pas du tout bien, parce que notre employeur, sous prétexte de baisse du courrier, qui est d'ailleurs sur des annonces assez catastrophiques qui ne sont pas réelles, en profite pour supprimer énormément d'emplois. Et pour regrouper les établissements, donc on a des établissements qui ferment notre point de vue régional, on a eu Saint-Quentin-Fallavier qui a fermé, le centre d'entraide de Corbas, Saint-Étienne qui est quasiment fermé maintenant, mais donc il va fermer définitivement, Mâcon, plateforme TGV qui ferme. On a un néologue qui est un sous-traitant de la poste qui ferme aussi, donc on récupère le courrier. Il y a d'autres structures qui vont bientôt fermer, probablement à la nuit d'Annecy. Et tout ça est regroupé sur Saint-Priest, sur notre centre de tri. Et entre autres, une des raisons, c'est pour limiter la taxe sur les bâtiments. Donc on se retrouve avec des conditions de travail de plus en plus effroyables, plus de place pour ni de stockage, donc les conditions de travail se dégradent, au niveau que tant physique qu'au niveau des risques d'accident qui sont de plus en plus. On travaille dans une promiscuité terrible, quoi, donc voilà.
D'accord. Et est-ce que tu sais si la loi Macron, ça va vous toucher, vous les postiers, ou pas spécialement ?
La loi Macron, sur les postiers, dans un point de vue immédiat, on a déjà une remise en cause donc du travail de nuit qui compte à la poste, il est à partir de 21h, là il va passer à minuit, donc je pense que la poste va s'engouffrer dans cette loi pour ne plus payer les heures de nuit vers minuit. Pareil sur le travail du dimanche, comme on travaille le dimanche dans le cadre de la continuité du service public, certainement ça va nous impacter aussi. Alors là, on n'a pas de visibilité sur réellement ce qui va se passer, mais il y a des fortes inquiétudes que le travail du dimanche soit plus compensé comme il est aujourd'hui. On a une remise en cause du travail de nuit aussi. Bien sûr, et puis comme tout le monde, on est impacté même si c'est un peu abusif, mais par la suppression des prud'hommes. Les prud'hommes n'auront plus la directe aussi, donc les inspections du travail ont de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de capacité à fonctionner les entreprises. Donc comme nous à la Poste, on a vraiment une entreprise qui particulièrement abuse sur les dérogations du droit du travail. Elle va avoir les mains libres complètement pour faire ce qu'elle veut et rendre le personnel encore plus taillable et corvéable à merci que ça l'est actuellement.
Et toi, tu es dans le cortège de la CNT, tu es syndiqué ?
Oui, moi je suis syndiqué à la CNT, donc je suis un des responsables du syndicat PTT, parce qu'on a maintenu notre appellation PTT. Voilà, donc je suis responsable de la section, un des responsables de la section syndicale de Saint-Priest, centre de tri.
D'accord, vous êtes beaucoup ?
On est une dizaine d'adhérents. On a rien que sur la plateforme industrielle courrier. Et on s'est présenté aux dernières élections, on a fait 8 points et demi au niveau représentativité. Donc ça fait, on représente quelque chose, tant en termes d'adhérents qu'en termes de sympathisants sur notre site.
Dans l'argent, il y en a.
Dans les caisses du patronat.
Dans l'argent, il y en a.
Dans les caisses du patronat.
Macron, à bas.
Et là, toute la réforme qui se prépare pour le collège.
Voilà,
Ils sabrent les langues anciennes. Moi, je suis une prof de latin et grec.
D'accord.
Et on va priver les futures générations d'élèves de la richesse de ces enseignements-là. Faire des économies, parce que ça, ils ne le disent pas, mais c'est ce qui se cache derrière.
Alors, pourquoi t'es là? Qui es-tu?
Alors, je suis étudiant en Master 1 de sciences politiques. Je m'appelle Fabien. Je suis militant au Parti de Gauche depuis 4 ans. Et donc, depuis toutes ces années, donc depuis la manif des retraites en 2010, je suis dans toutes les luttes, contre le libéralisme et le capitalisme en général. Alors, la loi Macron, en fait, là, on est en train de se battre pour une loi particulière, mais en réalité, elle fait partie d'un tout qui se comprend aussi bien dans le pacte budgétaire que dans la règle d'or qui a été imposée. Pas les directives de l'Europe, mais en réalité, les directives de l'Europe, elles viennent de nos dirigeants nationaux. Donc, cette loi, elle fait partie d'un système, et système n'est rien d'autre que le système capitaliste et libéral dirigé par la haute bourgeoisie et par ceux qui détiennent le pouvoir. Et donc, je suis là pour qu'on relance un élan d'espoir auprès de la population et auprès des gens pour changer les choses, et je pense qu'on a les moyens de le faire.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Bah, je bosse dans une mairie, donc en ce moment il y a plusieurs mairies qui sont en grève, notamment il y a Vaux-en-Velin, Pierre-Bénite, Mions, il y a eu la ville de Lyon aussi par rapport à l'internat que Colomb veut fermer. Et notamment c'est un peu dans toutes les mairies, ils touchent aux régimes indemnitaires, c'est-à-dire aux primes que touchent les agents. Et puis en plus, il y a dans toutes les mairies un peu les restrictions des moyens, donc ils suppriment des postes et tout ça. Et puis il y a aussi le gros truc, c'est la métropole que Colomb vient de créer, où ils ont fusionné le Grand Lyon et le département. Donc là, les agents, ils étaient en grève il n'y a pas très longtemps que ça. C'est un peu chauffé avec les keufs d'ailleurs. Comme il y a des agents département, des agents Grand Lyon qui arrivent, qui ont des droits, des conditions de travail, des primes qui étaient différentes, Colomb veut les harmoniser du coup par le bas forcément, les syndicats plutôt par le haut, et du coup ça fait du grabuge. Sachant qu'en plus, comme il y a des postes en doublon, du coup il y a des collègues qui se retrouvent sans poste, qui sont un peu sur des postes vacants, donc c'est un peu la galère.
Mais comment ça, du coup là ils sont payés mais ils n'ont pas de poste,
ça. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, ils ont, c'est ce que je disais, ils ont une certaine durée pour trouver un poste ailleurs. Et s'ils ne trouvent pas, après, ils sont mis à disposition du centre de gestion. Ils peuvent être envoyés un peu partout, à l'autre bout du département, dans les collectivités qui ont besoin de... Il y a une manif où c'est un peu chauffé avec les CRS, avec les CRS et avec la BAC.
C'est-à-dire, c'est un peu chauffé, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y avait 1500 personnes à peu près à la manif. Les collègues, quand on est arrivé devant le bâtiment, ils ont voulu rentrer, parce que c'est ce qui se fait un peu traditionnellement, d'occuper le hall du Grand Lyon, qui est quand même le lieu de travail, quoi. Là, il y avait une rangée de CRS, puis en même temps, il y avait le conseil de métropolitain où Colomb, il votait ses trucs. Du coup, il y a des collègues qui ont commencé à pousser un petit peu gentiment les CRS, enfin gentiment, plus ou moins gentiment, qu'on bloquait. Finalement, il y a des gens qui ont réussi à rentrer en passant par une sortie de secours, donc du coup l'occupation a quand même eu lieu. Donc là, il y a quelques centaines de collègues qui ont occupé du coup le hall d'entrée du Grand Lyon. Ça a duré 2-3 heures. C'était très tendu parce que là, comme les CRS se sont fait un peu bousculer, du coup c'est la BAC qui a pris le relais et ils étaient un peu plus... Bakue était un peu plus nerveux, il y a les coups de matraque qui sont partis et tout ça. Au bout d'un moment, finalement, les flics ont pris la décision, ils ont profité qu'il y a un peu de monde qui était parti, que c'était plus facile pour eux, pour virer tout le monde du hall d'entrée, alors que les gens étaient quand même sur leur lieu de travail. Les keufs ont cassé les vitres, il y a des portillons un peu comme dans le métro à l'entrée, ils ont cassé les vitres et tout, les keufs, hein, pas les manifestants, pour pouvoir virer les gens plus facilement. Et du coup, voilà, ça s'est terminé en bagarre générale entre la police et les manifestants. Et du coup, il y a deux personnes de la CGT qui passent en procès au mois d'octobre, qui sont poursuivies pour violence sur agent. Sachant que les syndicats ont aussi porté plainte contre la police, même si on sait que ça donne pas grand-chose en général. Parce que du coup, il y avait le secrétaire de la CGT qui a été littéralement assommé pendant l'occupation et qui est resté là par terre dans le hall d'entrée pendant une heure avant que les pompiers arrivent, devant tous les agents qui le voyaient par terre et tout. Enfin bon, c'était un peu
un peu chaud. Du coup, deux jours après, il y a les directions syndicales qui avaient un rendez-vous avec Colomb pour renégocier. Et là, il y avait une dizaine de quarts de keufs pour les accueillir, alors qu'il y avait dix élus syndicaux. C'est un truc super disproportionné. Donc du coup, c'est un peu chaud à la métropole. Et pareil dans les mairies aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de convergence, mais ça va peut-être arriver, quoi. Parce que du coup, il y a aussi le truc derrière qu'ils veulent dans les mairies baisser le régime indemnitaire de tout le monde. Pour qu'après, quand dans quelques années, il y aura au fur et à mesure des services qui intégreront des services de mairie qui seront transférés à la métropole, que les gens ils soient à peu près tous au même niveau de prime et que ce soit harmonisé par le bas, quoi.
On représente le collectif PUCE, le collectif des professionnels de l'urgence sociale. C'est la fin du plan froid et la situation est catastrophique. On a appris hier que 600 personnes à la fin du plan froid étaient mises à l'hôtel, sachant qu'il y a eu 900 places ouvertes, et qu'il y a énormément de familles et de personnes isolées qui se retrouvent à la rue sans solution, ce qui est complètement contraire à la loi.
D'accord. Il y a des actions prévues ?
Oui, tout à fait. Demain, 17h30, devant la DDCS, place Bladourian, rassemblement pour exprimer notre mécontentement face à l'État et demander à l'État la création de 2000 places d'hébergement et du coup la non-remise à la rue des personnes hébergées dans l'hiver.
D'accord. Et les personnes qui vont être à l'hôtel, elles vont y être pour on sait combien de temps ?
Ce qui est dit, c'est que les personnes mises à l'hôtel, ils sont le temps de leur trouver une solution adaptée. Après, voilà, c'est ce qui est dit. On sait bien que les mises à l'hôtel ne sont pas du tout adaptées. C'est surtout dans l'idée que les gens puissent sortir et qu'il n'y ait pas forcément de solution d'hébergement trouvée derrière.
Donc voilà, c'était un petit reportage sur la manif qui a eu lieu hier, le jeudi 9 avril. Alors, a priori, il y avait genre 4000 personnes. On a lu ça sur Le Monde. Donc voilà. Alors, on va revenir un peu sur les différents points qui étaient contestés. Donc, alors, notamment, parmi les choses qui ont fâché les gens, il y a notamment, on a beaucoup entendu parler d'austérité. Donc, c'est les restrictions budgétaires qui vont affecter, en l'occurrence, les communes, les associations, les services publics, etc. Donc les fonctionnaires, par exemple, ils vont se retrouver encore plus gelés dans leur salaire qu'ils n'étaient. Donc voilà, il va y avoir également de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les entreprises. Donc ça va encore affaiblir un peu plus la sécurité sociale. Et alors le gros point noir, c'était aussi évidemment la loi Macron. Le projet de loi Macron, qui est une espèce de couteau suisse de la loi, qui a été imposé par le gouvernement donc le 17 février via le recours à l'article 49.3. Alors, ce qui est plus précisément visé dans ce projet de loi, alors il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi, mais il y a quelques points qui font grosse tâche. Donc notamment l'augmentation du travail le dimanche. Puisque maintenant, ministres, préfets et maires pourront accorder des dérogations dans les zones internationales, touristiques, commerciales et dans les gares, ou, pas que, simplement s'il y a préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement. Donc c'est très très large et c'est un peu... voilà, tout le monde va pouvoir faire un peu comme il veut. Autre point, donc l'affaiblissement de la justice prud'homale, et notamment la capacité des travailleurs à s'y défendre. Ensuite, il y a la quasi-légalisation. Alors bon, c'est un peu... Mais c'est presque ça. La quasi-légalisation des délits patronaux. Donc alors, les sanctions pénales qui existent actuellement sont remplacées par des amendes. Donc l'employeur qui a commis un délit n'aura plus nécessairement à s'exprimer publiquement devant un juge, mais à négocier le montant de la sanction avec, accrochez-vous bien, la DIRCCTE, alors qui veut dire directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il a une belle cravate, lui.
C'est ça.
Et donc du coup, qui sont pas vraiment indépendants du patronat, évidemment. Alors après, il y a aussi un autre point, un développement du travail gratuit pour les handicapés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, les patrons pourront faire appel à des travailleurs handicapés venant faire une mise en situation en milieu professionnel. Ils ne seront pas payés. Et aucune obligation d'embauche ne suivra. Ceci remplacera l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. Donc, autrement dit, l'obligation de salarier ces personnes, comme n'importe quel autre travailleur, sera remplacée par des stages gratos à durée déterminée et spécialement prévus pour eux. Voilà. Et ensuite, autre point assez important, donc une attaque assez massive contre déjà les maigres protections incluses dans le droit du travail. Et alors, en fait, c'est important de comprendre, c'est que tout accord employeur-employé primera sur le droit du travail. Donc en gros, voilà, il suffit de soudoyer ou de négocier avec l'employeur et l'employé. Et donc en détail, enfin plus précisément, il s'agit de la suppression du deuxième alinéa de l'article 2064 du Code civil, que je vous laisse aller voir, ou autrement dit de l'article 83 de la loi Macron. Bref, et donc une citation de je ne sais plus qui: travailler le dimanche, la nuit, 12 heures par jour, 60 heures par semaine pour un demi-SMIC du moment que le salarié est d'accord. Donc voilà.
Et voilà, du coup, c'était un bon résumé de ce qui est prévu dans la loi Macron. Et du coup, vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site d'Attaque, qui a fait un gros décortiquage de cette loi. Et pendant que vous allez vite lire ce gros décortiquage, et ben nous, on vous passe une petite chanson en hommage à tous nos amis les patrons, une petite chanson d'Yves Jamais.
Jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne.
C'était donc Yves Jamais avec Y'en a qui. Et en parlant de ceux qui seront jamais dans la merde, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et bien bien sûr, c'est la fin du plan froid. Donc le plan froid, c'est la gestion de la misère sociale et de la grande précarité au thermomètre, puisque nos politiques et décideurs, qu'est-ce qu'ils font chaque année entre novembre et fin mars, début avril ou mi-avril, selon leurs envies? Ils ouvrent des places d'hébergement pour les gens qui sont à la rue ou qui sont en grosse galère de logement. Et vu que c'est de la gestion au thermomètre, le but c'est juste que ces gens-là qui sont à la rue, ils aient une place pour l'hiver, donc éviter qu'ils meurent sur le trottoir bêtement parce que ça gâche les fêtes et ça fait mal au cœur, alors que tout le monde s'en fout quand ils meurent l'été. Et vu que tout le monde s'en fout quand ils meurent l'été, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les places d'hébergement. Alors pour lutter contre ça, en ce moment même, il y a un rassemblement qui a commencé à 17h30 devant la DDCS, place Bahadourian. Donc la DDCS, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale. En gros, c'est eux les financeurs de toute l'urgence sociale et d'une grande partie de l'aide sociale dans le Rhône. Et du coup, il y a un rassemblement qui a été organisé par des gens en galère et des travailleurs sociaux en lutte. Il y a en ce moment 1000 personnes qui sont sur la place et une délégation qui allait voir donc cette DDCS pour négocier des choses autour de l'hébergement, et apparemment les flics se tiennent tranquilles, ils sont pas visibles là-bas. Donc ce que demandent les gens qui sont en lutte sur cette place, c'est bien sûr déjà plus de places d'hébergement dans le long terme. Donc ils demandent l'ouverture de 2000 places d'hébergement, parce qu'actuellement, même pendant le plan froid, donc au moment où les places sont renforcées, il n'y a pas assez de place pour les gens qui sont à la rue. Il y a encore plein de gens qui dorment dehors. Ils demandent pas de remise à la rue, parce qu'en ce moment, du coup, les structures qui étaient ouvertes pour l'hiver, elles ferment. Et alors là, comment ils négocient ça, l'État et la DDCS, pour pas qu'il y ait de vagues? Et bah, c'est tout simple. En fait, ce qu'ils font, c'est que les gens, ils les mettent à l'hôtel pendant une semaine. Alors en fait, imaginez, vous avez une structure qui accueillait, je sais pas, 50 personnes. Si ils se disent, ou 100 ou 200 personnes, s'ils se disent on la ferme directement, ils risquent de se heurter en fait aux gens qui se mobilisent entre eux et qui disent nous on partira pas, on reste là, et ça va foutre la merde. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir chaque personne et ils leur disent eh ben écoutez, on vous a trouvé une solution, vous allez à l'hôtel en attendant qu'on vous trouve une place plus pérenne. Et généralement les autres années, ce qui se passait, c'est que en fait la solution plus pérenne, c'était la rue, et du coup ils étaient remis dehors à la fin. Donc voilà les revendications des gens qui sont sur la place là-bas en ce moment même, du coup à Bahadourian. Vous pouvez encore les rejoindre, et ils demandent aussi du coup des solutions de logement adaptées. Donc ça, c'est aussi de se dire, au-delà du nombre de places, faut des logements qui soient adaptés à chaque personne, aux problèmes de chaque personne et aux besoins de chacun surtout.
Parfait. Donc maintenant, on va vous passer un petit reportage sur la marche non mixte qui a eu lieu. Alors si je me gourre pas, c'était le 7 mars à Marseille, mais peut-être que je me gourre, mais je crois que je me gourre pas. Alors pourquoi on vous passe ce petit reportage? Parce qu'il y aura lieu ce soir à 20h une marche non mixte donc à Lyon. D'ailleurs tout le long de la journée, il y a eu des préparatifs avec des ateliers, etc. Donc voilà, donc on va vous passer ce petit reportage, et ensuite après vous aurez le droit à une bizarrerie sonore concernant cette marche non mixte. Voilà, et tout de suite le reportage. Donc c'était à Marseille le 7 mars. Voilà.
Imaginez le bruit des cigales pendant qu'on s'occupe de la technique, et c'est parti.
Alors on se rapproche petit à petit de la marche non mixte. On est à Marseille, c'est le cœur du poulet.
Marche, marche, féministe, marche, marche. Oui, on se marche, marche. Et devant la marche, marche. Marche, marche, et c'est la marche, 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 et c'est la marche, marche, et irréductible, ni invisible, ni disponible, libre 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 et irréductible.
Ce soir, je suis venue pour soutenir les camarades, je suis venue pour la fin du patriarcat, je suis venue parce que c'est bon d'être là, parce que ça fait longtemps qu'on avait envie de ça ici, et puis que là, c'est là, quoi. C'est super.
Bonsoir. Vous connaissez la manif? Vous savez ce que c'est?
Non,
vous voulez... D'accord, ok.
Et voilà du coup un reportage sur la marche non mixte de Marseille qui avait eu lieu le 7 mars. Alors pourquoi on vous passe ça ? Parce que ce soir, bien sûr, il y a une marche non mixte pour toutes celles et ceux, donc du coup ceux non cisgenres, qui veulent s'y rendre. Ce sera départ de la place Croix-Rousse à 20h. Et on a abandonné notre bizarrerie radiophonique qui était bien sûr une lecture par l'Internet mondial, parce que l'Internet mondial sait parler maintenant du tract pour cette manif, de cet appel en fait. Et du coup, cet appel, vous pouvez le lire pour vous motiver et courir à cette marche non mixte. On le retrouve sur rebellion.info, bien sûr.
Et voilà, et donc maintenant on va changer complètement de sujet, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé, le fameux gaz de schiste. Donc voilà, alors on va commencer par la France. Alors pourquoi ? Parce que là, depuis le début de l'année, il y a un peu plus de remue-ménage là-dessus. Alors comme le titrait Mediapart, il y a anguille sous la roche. Alors pourquoi ? Pourquoi il y a anguille sous la roche ? Eh bien, alors tout simplement que malgré l'interdiction d'exploitation en France, donc qui a eu lieu en 2011, il se passe quand même un certain nombre d'événements qui vont plutôt dans le sens inverse. Alors notamment le 10 février dernier, s'est créé donc le centre d'hydrocarbures non conventionnels. Donc alors, c'est quoi ce centre ? Ben en fait, alors, déjà, faut bien voir que parmi les membres fondateurs figurent Total, GDF Suez, Vallourec, Solvay, Air Liquide, Vinci, Arkema, enfin bref, tout plein de gens qui sont évidemment totalement opposés au gaz de schiste. Et donc dans la foulée de la création de ce centre d'hydrocarbures non conventionnels, la ministre de l'écologie validait une demande de prolongation exceptionnelle jusqu'au 6 janvier donc 2016 du permis exclusif de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis de Saint-Just-en-Briquet en Seine-et-Marne, donc au profit de Vermillon REP, qui d'ailleurs fait aussi partie des fameux membres de la création du centre d'hydrocarbures non conventionnels. Hasard, peut-être pas. Alors depuis 2011, l'exploitation du gaz de schiste par la fracture hydraulique a été interdite. Du coup, il ne s'agit pas vraiment de l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste en lui-même. Et c'est un peu là-dessus que le renouvellement des permis se joue. Donc, alors d'ailleurs, par rapport au renouvellement du permis là en Seine-et-Marne, la lettre de la société donc Vermillon REP adressée au ministère précise. Alors je vous lis, je tiens à vous préciser que Vermillon REP n'aura pas recours à la technique de la fracturation hydraulique dans le cadre de ses activités de recherche sur le permis de Saint-Just-en-Brie, conformément à l'article 1er de la loi numéro 2011-835 du 13 juillet 2011. Tout va bien, donc le permis a été renouvelé. Alors, sous couvert de diffusion d'informations sur l'état sur l'état des techniques, donc des techniques d'exploitation d'hydrocarbures, donc ce centre-là, qui a été créé récemment, ressemble plus à une salle d'attente post-présidentielle 2017, un cheval de Troie qui parie sur l'avenir qu'à un repère de professeur tournesol intéressé par le sujet. Donc il y a quand même un conseil scientifique, tout ça, mais bon, au vu des membres fondateurs, on attend plus à ce qu'ils attendent de se partager la part du gâteau quand il y aura un retournement de veste de la part du gouvernement concernant l'exploitation du gaz de schiste. Et alors dans ce sens-là, donc toujours et très récemment, on nous a ressorti un document faisant la promotion d'une méthode de fracturation hydraulique à base de gaz liquéfié. Donc ce fameux gaz, c'est l'heptafluoropropane, évidemment. Donc alors le titre accrocheur de ce document donc évoque un document secret qui aurait été caché par François Hollande lui-même. Mais en fait, c'est juste une note du ministre de redressement productif. Donc c'était à l'époque, c'était Arnaud Montebourg, donc qui est totalement opposé au gaz de schiste, évidemment, étayé par un dossier faisant la promotion d'une méthode de fracturation de la roche profonde, qu'on appelle généralement roche mère, jusque-là jamais mise en œuvre, et vendue par la firme nord-américaine Ecorp. Alors, comme les alchimistes du Moyen-Âge cherchaient sans succès la pierre philosophale permettant de transformer le plomb en or, M. Mandebourg cherche la substance qui permettra de transformer le gaz de schiste en carburant écologique. Et donc, voilà, et donc c'est ce fameux produit, donc l'heptafluoropropane, donc pour ceux qui ont fait un peu de chimie, le CH3F7, donc gaz qui, une fois liquéfié, donc remplacerait l'eau dans le processus de fracturation hydraulique, puisque c'est un peu le point noir de la fracturation hydraulique. Donc justement, ce gaz liquéfié permettrait de ne pas utiliser d'eau, voire très peu, et pas de produits chimiques notamment. Donc il n'est pas inflammable. Alors, sauf que en fait, cette technique n'a jamais été testée pour fracturer la roche en conditions réelles. Donc voilà, donc en fait on sait pas trop ce qu'il en est, et c'est un peu flou, et c'est un truc qui a pas vraiment été repris par ailleurs, donc c'est un peu la technique miracle qui en fait a juste pour but de faire réouvrir un peu le débat qui a déjà eu lieu en 2011, pour dire en gros ben voilà, mais en fait on n'a pas tout exploré, etc., et qui alimente le renouvellement des permis sur la base de, ben non, on fait juste des techniques exploratoires, on n'utilise pas la fracturation hydraulique. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, donc il y a un petit tournant. Donc ça, c'était pour la France, et pendant ce temps-là, ben, au Danemark, parce qu'en fait, un peu partout dans plein de pays, ben, il y a des mobilisations contre le gaz de schiste, c'est très controversé. Et donc notamment, ben là par exemple au Danemark, des citoyens sont regroupés en collectifs et associations et sont mobilisés contre le projet de forage, donc ou surprise, qui est mené par Total, puisqu'il peut pas faire ses merdouilles en France, donc il les fait ailleurs. Il les fait aussi d'ailleurs en Algérie, lequel a reçu donc l'autorisation de l'administration danoise pour faire ce qu'on appelle un puits d'exploration, comment ils appellent ça déjà, c'est expérimental, quoi. Et donc chaque jour il y a des militants qui bloquent les routes d'accès au chantier, et pour bloquer donc les camions, le matériel, etc. Donc bah localement ça se mobilise un peu, il y a le conseil municipal de la commune voisine qui a envoyé une lettre au gouvernement dans laquelle il rappelle que le Danemark est un des rares pays à s'alimenter en eau exclusivement à partir de ses ressources souterraines. Et donc effectivement, la fracturation hydraulique présente très très haut risque de contamination de l'eau par tous les agents chimiques ajoutés. Donc voilà, donc là-bas, c'est un peu voilà, les gens se mobilisent, les flics virent les gens, et là, bah d'ailleurs, aujourd'hui même, cet après-midi, il y avait une manifestation donc à Copenhague pour protester contre ce puits de forage exploratoire, comme ils disent. Donc voilà, c'était un peu le point par rapport au Danemark. Et j'en ai fini pour le gaz de schiste.
Et bah du coup, en attendant bien sûr d'étrangler Mandebourg, qui a l'air d'avoir enlevé sa belle marinière pour nous vendre du poison, et d'étrangler ou d'étouffer au choix tous ces grands entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent nous vendre de la mort pour faire avancer la croissance directe droit dans le mur, et bah qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, en plus de profiter du beau temps parce que le soleil est là, et oui, vous venez d'entendre le premier bulletin météo des Canu Info. Donc qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Alors vous l'avez entendu, pour toutes celles et ceux non cisgenres qui sont motivés, et il en faut, et ça va être chouette, il y a une marche nocturne non mixte et féministe antipatriarcale, etc., etc., qui part de Croix-Rousse, donc de la place Croix-Rousse, à 20h, c'est dans quelques minutes, vite foncez la rejoindre. Et sinon, demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Donc on sera samedi, il fera beau, comme annoncé sur Scanu Info, donc le matin, profitez du beau temps, il y a le marché, il y a tout ça, et l'après-midi, on peut aller gaiement s'enfermer, où ça, à la MJC Jean Masset, au 38 rue Camille Roy, dans le 7e arrondissement. Donc s'enfermer comme ça, c'est pas très sexy, sauf que, qu'est-ce qui va s'y passer? Il va y avoir un chouette débat sur la lutte des classes en Grèce. Donc ce sera un débat autour de l'élection de Syriza, des luttes qui se sont tassées en Grèce après cette élection, essayer de réfléchir ces luttes, de comprendre comment Syriza prend sa place et comment les luttes vont pouvoir repartir. Et ce sera fait par un camarade, Andreas, qui vit à Athènes et qui vient pour animer ce débat et discuter avec tous les motivés qui seront là, bien sûr, à la MJC Jean Masset, au 38,
rue Camille Roy, dans le 7e arrondissement. Et le soir, vous en aurez marre de tous ces débats, et vous allez vite filer dans l'Ain, où ça dans l'Ain, à Turigneux. Et pourquoi à Turigneux? Parce qu'il y a le concert de soutien à Christian. Alors, tout le monde se demande qui c'est Christian. Christian, c'est un militant, en fait, des faucheurs, donc des faucheurs contre les OGM, qui a été tabassé par les flics, en fait, jeté au sol le 20 février 2012. Et en fait, ça lui a pété une vertèbre et il a eu 5 mois d'arrêt de travail. Donc en fait, ce gars-là entame un procès contre la police et il a besoin d'argent. Donc c'était en 2012, en 2015, le procès il n'est pas encore commencé, mais il a déjà des frais d'avocat qui seront engagés. Du coup, l'info est sur Rebellion si vous voulez plus d'infos. C'est à Turigneux dans l'Ain. Ça commence à partir de 19h30, donc concert et bouffe. Et sinon, après tout ça, vous serez bien fatigué dimanche soir, et qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Bien sûr, d'aller au ciné-club de l'Atelier des Canulars. Donc l'Atelier des Canulars, c'est juste à côté de Saxe-Gambetta, 91 rue Montesquieu. Et qu'est-ce qui sera diffusé à partir de 20h à l'Atelier des Canulars? Ce sera Boy A de John Crowley. Excusez-moi pour l'anglais. Du coup, c'est l'histoire d'un gars qui sort de prison, qui essaye de faire mettre fin à son passé qu'il poursuit, etc. Et comment tout ça va le reprendre. Donc voilà, c'est la fin du Canu Info. On va vous laisser avec Noise Pollution pour vous défouler avec du heavy metal. Et on vous dit à bientôt. Ça va marcher. Attention, ça arrive.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Noise Pollution.
Il s'agit de textes qui incitent l'auditeur à se suicider, à tirer, à appuyer sur la gâchette.